Radio Okapi.
Le journal Billy Van Lutumba.
Cette édition de journal s'ouvre par ce malheur survenu sur le fleuve Congo dans le Lualaba. Le naufrage survenu mardi a tué 23 personnes venant d'un site minier où on exploite le cuivre et se rendait au village Manfoué dans le territoire de Mouchacha. À suivre aussi dans le cours de ce journal, c'est cette assistance du Fonds des Nations Unies pour l'enfance à 4300 ménages de déplacés et retourner un article ménager essentiel qui d'hygiène, appui en santé et nutrition dans les aires de santé des Djougou, Masikini, Likopi et Boudou dans le secteur de Walendou, Djati, en territoire des Djougou. Professeur Paul Tchawa, secrétaire général au ministère de l'Environnement au Cameroun et membre du panel sur la problématique des conflits régionaux liés à la gouvernance foncière à la conférence de l'Union africaine, nous le recevons comme invité. Tous ensemble, nous scrutons diverses nouvelles qui défraient le secteur de l'information en RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue, excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir. Nous venons de l'apprendre. 13 personnes sont mortes mardi dernier dans un naufrage survenu sur le fleuve Congo dans le Lualaba. D'après le ministère provincial de transport qui confirme cette information, cet accident serait causé par une panne technique et un mauvais chargement, comme nous le dit Changando.
D'après le ministre provincial de transport dans le Lualaba, cet accident s'est produit mardi pendant la nuit. Les passagers venaient d'un site minier où on exploite le cuivre et se rendaient au village Manfoué dans le territoire de Mouchacha. Ce dernier est situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kolwezi. La barge avait à son bord plusieurs passagers et des marchandises. D'après Pichundai, arrivé à quelques encablures de ce village, à cause d'une panne technique et de la surcharge, la barge se serait heurtée à un objet et elle s'est renversée. On a dénombré 13 morts, dont 9 hommes, 3 femmes et un bébé. Il y a eu également 5 rescapés et toutes les marchandises sont tombées dans l'eau. Pichundai regrette que les propriétaires des embarcations ne respectent pas les mesures précédemment prises interdisant les voyages nocturnes sur le fleuve. En outre, rapporte-t-il, la plupart des barges qui opèrent la nuit transportent souvent au-delà de leur capacité, contrairement à ce qui est recommandé. Et si toutes ces mesures étaient observées, les vies humaines seraient préservées, nous a-t-il indiqué. Lubumbashi, Jangandou, Radio Okapi.
Encore d'autres morts, c'est dans le territoire de Béni où 9 civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF la nuit de jeudi à ce vendredi dans 2 villages du groupement de Batangimbao. Selon des sources de la société civile dans la région, il s'agit d'un bilan provisoire car la fouille pour retrouver certaines personnes portées disparues se poursuit. L'armée a été déployée dans la région. André Kitenge pour les détails.
C'est vers 3h du matin, heure locale, que les ADF ont attaqué simultanément Maobu et Makodou, deux villages du groupement de Batangimbao. Selon Kinos Katuo, un des notables de la région, les assaillants ont tué 9 personnes, dont 5 au village Maobu et 4 autres au village Makodou, situé à plus ou moins 40 km au nord d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. D'autres personnes sont portées disparues. Des maisons ont été incendiées par les assaillants, ajoute-t-il. Cette attaque a provoqué un déplacement de la population vers des milieux jugés sécurisés. Un calme précaire est observé ce vendredi matin après le déploiement des soldats des FRDC dans la région. L'armée, à travers le porte-parole des opérations Sokola 1, indique que la situation est bien sous contrôle des FRDC et promet de se prononcer dans les heures qui suivent. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Nous parlons à présent de l'insécurité dans le territoire de Kouamout, dans la province du Maïndombe, où l'on parle encore de cette insécurité avec ces militaires tués, une dizaine de blessés, des miliciens Mobondo arrêtés. C'est le bilan des affrontements mercredi et jeudi entre l'armée et la milice Mobondo dans le village Tcho. Les militaires en opération dans ce coin du pays sont tombés dans l'embuscade de ces miliciens, rapporte le président de la société civile de Kouamout. Martin Souta appelle le gouvernement congolais à multiplier des efforts pour que la paix et la sécurité puissent être restaurées dans cette partie du pays. Le point avec Irène Beaumont.
Les sources de la société civile du territoire de Kouamout qui alertent rapportent que les violents affrontements ont eu lieu dans la journée de mercredi et de jeudi dernier entre les militaires FRDC et la milice Mobondo. Les faits se sont passés précisément au village Ncho, situé à 45 km de Kouamout cité, chef-lieu de cette entité territoriale. D'après les mêmes sources, ces miliciens qui s'organisent toujours pour maintenir l'insécurité dans cette partie de la province du Maïndombe depuis plus d'une année ont tendu une ambition Biscate au FRDC dans cette localité entourée des forêts. Le bilan provisoire fait état de quelques morts et d'une dizaine de blessés dans les camps des militaires, indiquent nos sources. Et du côté des assaillants, le nombre de morts reste aussi inconnu, mais la société civile de Kouamout parle de plusieurs Mobondo arrêtés et transférés à Kouamout pour le moment. Martin Souta, président de cette structure citoyenne, plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires pour pacifier définitivement la région afin que la population puisse vivre dans la quiétude. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et dans la plaine de la Rosise en territoire d'Ouvira, la situation est devenue au calme hier à Kachato, un groupement de Runingu dans le site de rassemblement des ex-combattants. Ces derniers s'opposent à l'organisation de la cuisine commune que vient d'instaurer le PDDRCS depuis une semaine. Une situation qui a poussé certains d'entre eux à faire défection et retourner en brousse. De ce fait, les notables de cette entité plaident pour une prise en charge appropriée de ces combattants. Ils l'ont fait savoir à une équipe d'évaluation de la situation sécuritaire de la MONUSCO qui s'est rendue sur place mercredi dernier. Fiston Goma.
Ces rendus s'opposent à l'organisation de la cuisine commune que vient d'instaurer le PDDRCS depuis une semaine. Le week-end dernier, un rendu eux-mêmes entra en altercation avec un chef magasinier, réclamant qu'on lui remette sa ration alimentaire au lieu du repas collectif. Contacté, le chef d'antenne du PDDRCS, Ouvira Samuel Matabishi, confirme avoir suspendu les systèmes de dotation alimentaire individuelle à la suite de quelques dérives constatées sur les rendus. Certains d'entre eux revendaient directement leur ration alimentaire aux commerçants. Avec cet argent, ils pouvaient passer toute la journée dans des débits de boissons, puis retourner le soir affamés dans les sites. Des cas d'évanouissement ont été rapportés, déplore-t-il. Chaque semaine, l'OIM remet au PDDRCS une quantité de farine de maïs, des haricots, du sucre et du sel pour nourrir les rendus de Kachatou. Cependant, les notables de Runingu ont signalé mercredi dernier à une équipe de la MONUSCO en mission d'évaluation dans la zone que cette nourriture est insuffisante pour les combattants. Ils craignent que ce dernier n'insécurise la zone et affirment que plus de 100 parmi ces rendus sont retournés dans la brousse fouillant ces conditions de vie précaires. Le chef du PDRCS Ouvira Samuel Matabi chez lui précise que ces rendus sont en visite des familles et ne sont pas encore retournés à Kachatou.
Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance UNICEF a assisté 4300 ménages des déplacés retournés en articles ménagers essentiels qui d'hygiène, appui en santé et nutrition dans les aires de santé de Djougou, Masikini, Likopi et Boudou du secteur de Walendou-Diati. Nous sommes là dans le territoire de Djougou. Le projet est exécuté par l'ONG Programme de Promotion des Soins de Santé Primaires PSSP Ituri. Une bouffée d'oxygène pour les nombreux déplacés victimes des conflits armés dans cette région. Des détails avec Jean-Claude Lokidile.
Trésor Muyumba, chargé de communication du dit projet au sein de PPSSP, précise que 30 villages de ces aires de santé ont reçu des kits pour la construction des abris tels que des pioches, scies, bêches et un appui en médicaments et matériaux médicaux. Ces populations bénéficient de la gratuité des soins.
Ils vont bénéficier des soins gratuits à partir de ce mois de novembre jusqu'au début du mois de janvier 2024.
Dans les aires de santé de Djougou, Masikini, Likopi et Boudou, 4332 personnes ont reçu, entre autres, des bâches, couvertures, nattes, casseroles, gobelets, pagnes ainsi que le kit d'hygiène pour les femmes en âge de procréation. Cette bénéficiaire exprime sa joie.
Nous remercions l'UNICEF de nous avoir envoyé PPSSP. Nous avons reçu beaucoup de biens, notamment des habits, juste avant la fête. Nous sommes très contents. Nous bénéficions des soins gratuits et nous accouchons même gratuitement. Nous disons merci à l'UNICEF.
Le chef des secteurs de Walendou-Diati rappelle que les besoins humanitaires dans la communauté sont encore énormes, d'où son appel aux autres organisations humanitaires à emboîter les pas à l'UNICEF qui a financé cette aide distribuée aux déplacés. Bounia, Jean-Claude Lokidi, les radios Okapi.
Dans le territoire de Béni, la coopérative des producteurs, acheteurs et revendeurs des produits agricoles dans la chefferie de Wataling plaide pour l'installation d'une microfinance ou la succursale d'une banque dans cette chefferie. Selon le président du conseil d'administration de cette structure qui encadre plusieurs centaines d'agriculteurs dans la région, aucune banque ni microfinance n'y existe. Du coup, la population est obligée de se rendre en Ouganda voisin pour bénéficier de l'assistance d'une institution de microfinance. Pour lui, la microfinance permettra une bonne circulation de l'argent entre agriculteurs, acheteurs et différentes entreprises qui investissent pour l'amélioration de la production agricole dans cette région. David Mouazé s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo.
Il y a nécessité d'installer une microfinance ou une succursale d'une banque pour que la population et aussi les entreprises acheteurs de ces produits puissent chaque fois se ravitailler à travers cette banque ou cette microfinance qui sera aussi une réponse à la question de l'utilisation de la monnaie. En fait, que la situation du secteur agricole, surtout dans la production de cacao, soit plus améliorée étant donné que nos nos sociétés qui sont en train d'encadrer le planteur se donnent pour l'amélioration de la qualité, mais le besoin reste très énorme par rapport à l'installation d'autres sites ou centres de fermentation, étant donné que aujourd'hui il y a une grande quantité de cacao qui y provient de Kikingi dans la partie sud-ouest de la chefferie de Watalinga.
Autre chose à présent, la campagne électorale impacte positivement sur les activités entrepreneuriales dans la ville de Bukavu. Les affaires tournent en faveur des entrepreneurs impliqués dans les activités de location du matériel de sonorisation. La forte demande défavorise les candidats moins nantis à se procurer facilement le matériel de sonorisation pour mener à bien leur campagne. Jean Kassami a constaté cet état des choses en faisant le tour de la ville. La campagne électorale constitue un gain pour certains entrepreneurs de Bukavu.
La campagne électorale constitue un gain pour certains entrepreneurs de Bukavu. Baguma Mweze, connu sous le sobriquet de Master Z, entreprend dans le domaine de la sonorisation. Les candidats défilent régulièrement à son bureau pour solliciter la location du matériel, des baffles, des mixeurs et des générateurs. Les prix se négocient de gré à gré. Une stratégie qui permet à l'opérateur de dissocier les candidats nantis des autres.
Il n'y a pas les tarifs. Si quelqu'un vient, il faut que nous convenions les prix parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Les anciens ont déjà beaucoup d'argent. Beaucoup sont des voleurs. Il y a les autres qui ont des capacités, mais n'ont pas l'argent.
Si pour certains candidats, les prix du matériel pour leur visibilité importent peu, d'autres crient à l'inégalité des rapports de force. Bibiche Masoka, candidate à la députation nationale ville de Bukavu.
Il y a des nantis parmi nous et qui ont la facilité d'accéder à ces éléments de sonorisation. Le prix est exorbitant puisque la demande est trop élevée.
Les écrans géants installés dans des coins stratégiques de la ville par des particuliers attirent aussi les candidats, chacun selon ses propres moyens. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Clôture ce jeudi à Kinshasa de la 12e édition du Forum Africa Digital Expo ADEX sous le thème « Les leviers de la maturité numérique ». Organisé par l'Agence pour le développement du numérique, ADN, en collaboration notamment avec la société marocaine One Africa, ce salon international du numérique ouvert mercredi réunit plus de 200 directeurs informatiques des services publics des entreprises du portefeuille de l'État en plein processus de digitalisation. Objectif, partager l'expérience sur le numérique en vue de favoriser le développement. Pour le coordonnateur de l'ADN, l'un des grands défis à relever à l'issue de ce rendez-vous est la numérisation de tous les services étatiques. Dominique Miguicha le dit à Grâce Hamzati.
Nous avons célébré le numérique qui présente de nombreux avantages pour notre population. Et le premier des avantages, c'est de faciliter l'accès à l'État. Le fait de demain pouvoir accéder aux services de l'État, des services de meilleure qualité, eh bien, ça sera possible grâce au numérique pour demander son passeport, pour demander son permis de conduire, pour demander des actes de naissance, des extraits de casier judiciaire. Tout ça, ça sera possible grâce à l'e-gouvernement et les gens pourront, à partir de chez eux à la maison, eh bien, interagir avec l'État qui pourra ainsi offrir des services publics de qualité améliorée. Comme ça se voit partout dans le monde, eh bien demain, grâce au numérique, eh bien en République démocratique du Congo, avec le numéro unique, avec la carte d'identité biométrique qui sont en train d'arriver ici, mis en œuvre par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, eh bien ce sont autant de services et d'opportunités qui vont s'offrir aux citoyens avec demain une plateforme e-gouvernement qui va commencer avec un certain nombre de services et puis mois après mois, année après année, eh bien nous pourrons remplir à travers de manière électronique, la quasi-totalité eh bien, des actes administratifs que aujourd'hui nous remplissons avec du papier.
Actualité internationale.
Une épidémie de dengue maladie transmise par les moustiques a fait 356 morts au Burkina Faso entre mi-octobre et mi-novembre, portant le bilan à 570 morts depuis le 1er janvier, a annoncé vendredi un établissement relevant du ministère de la Santé. Au 15 octobre, la même source faisait état de 214 morts depuis le début de l'année. Entre le 15 octobre et le 19 novembre, 356 personnes ont donc succombé à la dengue. Le Parlement du Mozambique, pays d'Afrique australe confronté à des attaques djihadistes, a adopté jeudi un projet de loi visant à faire passer la durée minimale du service militaire obligatoire de 2 à 5 ans. Selon le gouvernement, il s'agit d'augmenter le professionnalisme des forces armées du pays. La prolongation du temps de service sous les drapeaux et la professionnalisation des forces armées sont des facteurs essentiels pour former des troupes à la hauteur des défis de la sécurité nationale, a souligné le ministère de la Défense nationale.
L'invité.
Notre invité dans cette édition est le professeur Paul Chawa. Il est secrétaire général au ministère de l'Environnement au Cameroun et membre du panel sur la problématique des conflits régionaux liés à la gouvernance foncière à la conférence de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Il fait l'analyse de la situation en Afrique de l'Ouest et centrale, particulièrement en RDC, des pistes solutions pour une coopération régionale durable et la promotion de la zone de libre-échange continentale en Afrique. Il s'entretient avec Isaac Remoyope.
Vous êtes un membre du panel qui a exposé sur les liens qu'il y a entre les conflits régionaux et les problèmes de gestion des terres. De manière d'abord sommaire, quel lien vous établissez entre la gouvernance foncière et les conflits régionaux?
Vous savez, on ne peut pas adresser la question des conflits, surtout à l'échelle régionale, si on ne prend pas en compte la gouvernance foncière. Et qu'est-ce que j'entends par gouvernance foncière? C'est un ensemble qui comprend les textes, les règles d'accès, d'usage, les droits, mais également les institutions, c'est-à-dire des personnes ou des structures étatiques ou à un niveau inférieur qui règlent tout cela. Il faut donc forcément, à un moment donné, qu'on mette des articulations en place permettant d'harmoniser les institutions et surtout les règles interpays, et puis qu'on fasse fonctionner ce qu'on appelle les instances économiques au niveau régional. Mais j'ai évoqué aussi tout à l'heure une difficulté d'un tout autre ordre. Quelquefois, la stabilité politique de nos pays joue. Quelquefois, au sommet de l'État, ça change brutalement et on remet en question les choses. Les accords sont gelés et ça n'arrange pas les conflits.
Vous avez déjà relevé quelques causes de ces conflits régionaux, mais est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, qui justifient que dans presque tous les pays en Afrique, il y a toujours ce problème de conflits régionaux qui met à mal un peu cette vision de l'agenda 63 pour la zone de libre-échange continentale en Afrique?
Les défis récents sont en lien avec la croissance démographique et les effets du changement climatique. C'est des défis récents. Cela, du coup, déclenche ce qu'on appelle une compétition d'accès aux ressources. D'où les mobilités, d'où des dynamiques qui prennent des itinéraires nouveaux, qui enjambent les parcs nationaux, qui traversent des espaces agricoles. Il faut véritablement des outils supranationaux pour permettre de fixer les couloirs, d'affecter les terres et d'éviter que ces mobilités ne donnent lieu aux conflits qu'on constate.
Vous êtes professeur, chercheur, pour évoquer par exemple le cas de la RDC où on voit vraiment un afflux, un mouvement migratoire vraiment important. On parle des Mororo qui viennent du Tchad, qui s'installent avec leurs bêtes et même avec des armes, on voit les ADF. Est-ce qu'on peut dire par exemple le cas de l'Afrique centrale et de la RDC en particulier, qu'elle est victime peut-être de ces ressources?
Oui, moi je pense que c'est un cas d'école, victime de ces ressources, mais également, vous savez, pour parler de la RDC, moi en tant que géographe, quand je parle de la RDC, j'évoque systématiquement sa superficie. C'est un très grand pays en superficie. Et chaque fois que vous avez un pays de cette taille-là, le pouvoir central doit être très fort pour contrôler toutes les périphéries. Ou le pouvoir, ou au niveau national, on doit consentir soit à recourir aux régions suffisamment autonomes,
donc le fédéralisme,
ou le fédéralisme. Si on met une croix sur toutes ces possibilités-là, les périphéries vont toujours être des passoires, avec des risques que l'on constate, notamment dans le cas d'espèces, c'est dans le Kivu encore, une fois de plus.
Les panélistes ont évoqué qu'il y a escalade des violences dans la partie de l'Afrique centrale et attire même l'attention de l'Union africaine pour qu'on puisse se pencher sur ces problèmes. Selon vous, quelles peuvent être pendant des pistes et des solutions?
Franchement, sans jouer à l'apprenti sorcier ou au prestidigitateur, je pense que la première chose serait de faire en sorte que les instruments créés par l'Union africaine en la matière soient diffusés, connus et appliqués.
Lesquels, par exemple?
Il y a un guide dédié au pastoralisme qui date de 2022. Je me demande si c'est bien connu, je me demande si c'est diffusé, je me demande s'il y a des moyens qu'il faut et des stratégies qu'il faut pour que cet important instrument rentre en application. Pour qu'il ait la force, il faut qu'il ait été adopté, validé au niveau du sommet des chefs d'État. Mais pourquoi n'est-il pas appliqué? Donc commençons par là et impliquons également les communautés, mobilisons la recherche pour bien comprendre particulièrement l'influence des défis nouveaux, changement climatique notamment. Mais pour moi, il s'agit véritablement, compte tenu des enjeux, compte tenu de l'échelle transfrontalière, que les instruments au niveau supranational soit appliqué. On constate simplement que il y a un certain nombre d'outils qui tardent à être implémentés et l'Union africaine devrait se donner les moyens. Maintenant, il y a d'autres priorités. Il y a ce qu'on appelle aussi des contingences, des conflits qui surviennent ou qui peuvent faire en sorte que les moyens soient réaffectés à d'autres choses.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Et voilà qui met un terme à ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi.